Cours de critique par le père Marie-Dominique Philippe, le 25 juin 1993 à Saint-Jeudard.
Continuer à réfléchir sur l'induction, étant donné que c'est de fait l'opération intellectuelle qui caractérise la pensée philosophique. En psychologie, vous n'avez pas d'induction. Vous avez des lois, des hypothèses. C'est très important, ça. Vous voyez, c'est la reprise des degrés du savoir qu'on doit absolument avoir en acte. Si on ne l'a pas en acte, on ne comprend rien à la finalité. Et si on ne comprend rien à la finalité, on ne peut pas assumer l'intelligence au service de la foi. Et tout est là. Depuis Descartes, il y a une séparation entre intelligence et foi. Alors, où on absorbe la foi par la raison, où on rejette la raison et on tombe dans le fideïsme. C'est les deux positions extrêmes. Ils sont, j'allais dire, posés d'une façon très étonnante à partir, même avant Descartes, à partir de Kant. Puisqu'au fond, d'une certaine manière, Descartes n'a rien inventé. Il a exprimé en langage vulgaire, c'est-à-dire en français, ce que Occam avait dit. C'est très étonnant, ça. Les théologiens parlaient latin. Alors, ça se transmettait de pays en pays. Mais, chez les théologiens, à un moment donné, ça a éclaté. Et Descartes a fait cet éclatement. Mais, le virus était déjà présent. Il n'y a plus, chez Occam, il n'y a plus d'induction. Chez Don Scott, il n'y a plus d'induction de la finalité. Docteur très subtil. Or, ce qui est important pour nous, c'est de sauver la finalité au plan de l'intelligence. En sauvant la finalité, on sauve l'intelligence. Et par le fait même, on donne à la foi son soubassement naturel. Ce n'est pas la raison qui est le soubassement naturel de la foi. Ce n'est pas la science moderne qui est le soubassement de la foi. C'est la découverte de la finalité. Puisque c'est à l'égard de la finalité qu'on distingue l'ordre naturel, l'ordre surnaturel. Et je crois qu'on devrait reprendre aujourd'hui très fortement au plan critique. Parce que c'est un problème critique. Le passage de l'ordre naturel à l'ordre surnaturel par le point de vue de la finalité. Mais c'est sans doute ce que beaucoup de théologiens actuels sentent sans pouvoir le faire. La querelle entre le père de Lubac et le père dominicain là. trouverez l'intéressante, vous lirez ça en théologie. C'est intéressant parce que c'est la dernière. C'est le combat de la fin. J'ai beaucoup vu le père de Lubac à la fin de sa vie. Parce qu'il était chez les petites sœurs des pauvres. Chaque fois que j'y allais pour voir tel ou tel malade, je lui disais un petit bonjour. Il était tellement gentil dans le sens profond. Il priait tellement pour la communauté Saint-Jean qu'il aimait profondément. Je crois, vous voyez, que c'est savoir si on peut comprendre la distinction nature sur nature au niveau de la cause formelle ou au niveau de la cause finale. Il n'y a pas de métaphysique chrétienne. Il y a une éthique chrétienne. C'est toujours ça qu'il faut se poser la question. Alors pourquoi? Pourquoi pas de métaphysique chrétienne? Comme si la causalité formelle, par elle-même, oui, ne pouvait pas être, j'allais dire, la puissance obédientielle à la grâce.
En définitive, ce qu'est l'intelligence
émergeant de son conditionnement humain. Comment voulez-vous comprendre les rapports entre la psychologie et la philosophie si vous ne voyez pas l'émergence de l'intelligence par rapport à la raison? Vous ne comprenez pas et vous répétez. Et celui qui répète sans comprendre diminue toujours. Et au bout d'un certain temps, ça devient incompréhensible. Alors, vous comprenez le dépassement de la finalité par rapport aux motivations, puisque les psychologues parlent toujours de motivation. Je voudrais bien savoir ce que c'est. Le dépassement de la finalité par rapport aux motivations. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'écriture, dans l'évangile de Jean, puisque l'évangile de Jean, à ce point de vue-là, est admirable, on dit bien, il était de la ville de Pierre et d'André. Motivation. J'ai une sœur qui est entrée chez les contemplatives de Saint-Jean. Motivation pour la vocation d'entrer chez les frères. Mais vous n'entrez pas chez les frères parce que vous avez une sœur. Mais psychologiquement, c'est la motivation. C'est sûr. J'ai vécu au bord de la mer. J'ai donc le sens de l'infini. Motivation. Et c'est pour ça qu'il y a tant de Bretons dans la communauté des Saint-Jean. Motivation. La différence entre la motivation. Vous interrogez tout de suite là-dessus. La différence entre la motivation et la finalité. Le conditionnement, c'est la motivation. Et vous ne pouvez comprendre parfaitement que lorsque vous passez de l'affectif à l'intellectuel. Parce que l'affectif n'est pas très intelligible par lui-même. Et donc, c'est du côté de l'intelligence qu'il faut voir le dépassement de l'intelligence par rapport à la raison. Et c'est à l'égard de l'induction de l'acte que ceci est manifeste, éclatant. Alors, à ce point de vue-là, c'est extraordinairement intéressant de voir au plan critique, parce qu'il s'agit de la critique, hein, quand je compare le point de vue psychologique et le point de vue philosophique, le point de vue psychologique et le point de vue de l'éthique, c'est un problème critique qui a des répercussions dans toute ma vie. C'est bien évident. Je ne peux pas fonder ma vie sur les motivations, parce que ça change. Ça change. Dans 10 ans, on ne sera plus les mêmes motivations. Surtout actuellement, où les motivations sont souvent prises du côté économique, donc du côté matériel. Alors, c'est intéressant de saisir ça. L'induction de l'acte se situe après l'induction de la substance. L'induction de la substance, c'est la question du TST. Qu'est-ce que c'est que ce qui est premier dans ce qui est en tant qu'être ? Bien comprendre cette interrogation, il faut évidemment comprendre ce que ça veut dire de dire ce qui est en tant qu'être, c'est-à-dire le dépassement du devenir. Pas si commode, hein? Et dans le dépassement du devenir, interroger, comment voyez-vous cela? Je vous ai déjà dit, il y a plusieurs manières de le voir. De l'histoire de la philosophie. Et c'est toujours là où on doit coincer le philosophe, les relations de l'être et du devenir. La grandeur de la philosophie grecque, c'est qu'elle a fait le dépassement. Parménide, Héraclite. Deux manières de dépasser le devenir. L'un, par l'inspiration de la déesse. La déesse a servi d'induction. C'est déjà bien. Ce qui montre que l'induction est quelque chose de divin. Divin au sens grec. C'est-à-dire de l'esprit. La raison est humaine. Tandis que l'esprit a quelque chose de sacré. Quelque chose de divin. Et c'est le mythe de Parménide qui montre ça. Héraclite, lui, il a dépassé le devenir. Par la loi. Et par le feu. C'est assez joli du reste. Le logos et le feu. Les deux dépassements. Substance, acte. Et c'est dit encore d'une manière très embryonnaire et assez symbolique. Mais c'est quand même, à ce point de vue-là, Héraclite. Héraclite défait, ça. C'est notre arrière-grand-père pour Éphèse, ça. C'est pour ça qu'on doit l'aimer énormément. Tous vous travaillez Héraclite d'Éphèse. Parce que c'est Éphèse. Alors ça fait comprendre le point de départ du logos dans la philosophie grecque. Et ça fait comprendre le point de départ de l'acte dans la philosophie grecque, le feu. Le dépassement de l'être par rapport au devenir me fait poser la question, qu'est-ce qui est de premier dans l'être que je ne vois pas? Parce que l'être, je ne le vois pas. L'être, je le touche par l'intelligence. Je l'atteins dans le jugement d'existence. Je le touche. Ce qui est premier dans l'ordre de l'être, la substance. J'emploie un mot déjà existant, mais double dans sa signification. Substance première, substance seconde, c'est très élémentaire. Premier, second. Et le premier et le second sont en correspondance l'un par rapport à l'autre. Pierre, homme. Pour venir à ça toujours. Pierre, homme. Signification singulière, signification universelle. C'est le gros problème de toute la philosophie européenne. Le visible, Pierre. L'homme, l'invisible. Et qu'est-ce qui fait le lien entre les deux? C'est qu'il y a un tikoinon. Il y a quelque chose de commun. Et ce quelque chose de commun, l'intelligence le saisit en disant la substance. Tous les deux, substance première, substance seconde. Mais il y a la substance qui n'est ni première ni seconde. Qui est la substance à l'état pur. Qui est la substance. Principe. Suffisant de dire la substance, principe. C'est-à-dire à l'état pur. Dès que vous parlez de principe, vous êtes toujours à l'état pur. C'est pour ça que c'est si difficile à saisir. La loi est un ersatz du principe. Puisque c'est une relation et que la relation est l'être le plus débile, dit le philosophe. Et donc la loi, c'est le principe le plus débile. Je dis pas que c'est le principe pour les débiles, mais c'est le principe le plus débile. Et c'est la loi. C'est très très important de saisir ça. Pour sauver ce que c'est que l'esprit. La raison ne saisit que la relation. La psychologie ne saisit que les relations. C'est très intéressant quand j'ai saisi le principe. Mais si j'ai pas saisi le principe, c'est pas la loi qui va vous faire saisir le principe. Vous allez adorer la loi. Et vous n'en sortirez plus. Je dis ça pour que vous compreniez. Hein. Alors au moins, vous serez en face de Dieu, vous seriez, oui, on me l'a dit. Donc je suis responsable. Je suis responsable de comprendre la différence entre une loi et un principe. La substance est principe. Les lois, je les trouve en logique. Et je transforme ces lois en axiomes. Je crois que l'axiome, c'est la logique qui prend le pas sur la métaphysique, mais qui donne alors des axiomes. Qui sont plus que des lois, les axiomes. C'est quelque chose de tout à fait premier, qui sont souterrains. Je ne peux pas ramener l'être à la substance. L'être est plus que la substance. Pourquoi? Parce que quand je pense à mon exister, je vois que ma vie intellectuelle, ma recherche de la vérité, ma capacité d'aimer dans l'ordre de l'amour d'amitié, dépasse la substance. C'est de l'ordre de l'opération vitale qui, par rapport à la substance, est accidentelle. Je vois que en moi, il y a deux états différents. Le fait de dormir et le fait d'être éveillé. D'être attentif à la recherche de la vérité. Deux états différents. Ces deux états différents regardent la même réalité. C'est Pierre qui est éveillé. C'est Pierre qui dort. C'est le même Pierre. Il y a deux états tout à fait différents. Et par rapport à la substance, c'est accidentel. Je ne peux pas donc ramener tout à la substance, Spinoza. Je dois essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces états. Un état imparfait, un état parfait. Je constate ces deux états. Et ça, je constate. Je sais ce que c'est qu'un être qui dort. Pas toujours facile de le réveiller. C'est vrai, quand quelqu'un dort profondément, il a beau taper. Le réveil a beau sonner, il ne répond pas. Il dort. Puis quand il est éveillé, moindre bruit le met en état d'alerte. Très curieux. Ces deux états touchent radicalement la personne humaine. Je peux prendre aussi l'état de celui qui est malade, moribond, qui agonise, et celui qui est en pleine force. Pleine force, pas seulement sportive, hein, parce qu'il y a des sportifs qui dorment intellectuellement, hein, c'est évident. Alors, il y a être en pleine lumière intellectuelle. Il y en a qui restent à l'état de moribond par rapport à l'amour et d'autres qui aiment. Je trouve que ces deux états, parfaits et imparfaits, se trouvent dans tous les niveaux d'intelligibilité que je connais. De depuis la vie végétative. Dormir et être éveillé, c'est la vie végétative, ça. La vie sensible et passionnelle. La vie spirituelle. L'intelligence. La durée morale. L'éthique. Le faturé. Par le fait même, au niveau politique. Ce sont deux états qui se retrouvent à tous les niveaux. Que tous ces niveaux sont divers et ne sont un que dans l'être. S'il y a cette diversité d'états à tous les niveaux, cette diversité d'états existe même au niveau de l'être. C'est le possible et l'acte. Alors, comment découvrir cela? Comment passer de cette diversité de ces états à ce koinon, ce qu'il y a de commun, quelque chose de commun, qui explique à tous les niveaux ces deux états. Je pose donc la question, puisque toute l'induction, nous l'avons dit, l'âme de l'induction, c'est l'interrogation. Savoir interroger. Et l'interrogation, vous voyez, c'est l'intelligence qui devance. C'est là où, petite intuition, je crois, quand on interroge, on saisit quelque chose, on saisit qu'il y a une relation souterraine. Entre deux états. Et donc, dans l'être, il y a justement quelque chose de particulier. Alors, je me pose la question, puisque l'état de parfait, c'est ce qui donne le sens à l'imparfait, ce qui finalise l'imparfait. Je me pose la question, au niveau de l'être, quel est le TST de l'être, au niveau de la fin? Qu'est-ce l'être au niveau de la fin? Qu'est-ce l'être au niveau du parfait? Qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans l'être? Puisque ce qui est parfait est toujours ultime. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Et cette interrogation, elle est capitale. Il faut que ça ait un sens pour vous. Si cette interrogation n'a pas de sens, vous n'avez pas l'intuition. Comment cette interrogation? Et cette intuition, c'est de saisir ce qu'il y a de commun à tous les différents niveaux entre l'état d'imparfait et l'état parfait. Il y a quelque chose de commun entre le fait de dormir et être éveillé, le fait d'être capable de construire et de construire, le fait d'être capable de voir et de voir, le fait d'être capable d'aimer et d'aimer. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a un ordre entre l'imparfait et le parfait? Comment découvrir la signification de cet ordre? Comment découvrir ce qui est la fin de l'être? Ce qui finalise l'être. Vous voyez, poussez jusqu'au bout cette interrogation. Et vous verrez, ça repose sur une certaine intuition. Certaine intuition, c'est une intuition. Là. Quand Maritain dit intuition de l'être, c'est au niveau de l'interrogation. C'est ce qui engendre l'interrogation, je crois. Là, il a raison. Mais c'est pas juste que j'ai l'intuition de l'être. J'ai l'intuition de l'interrogation sur l'être. C'est tout à fait différent. Et ça, on a une intuition sur l'interrogation de l'être. Vous savez bien que en science, c'est très significatif. Je il est couvert. Si le maître vous met sur une voie sans issue, vous pouvez travailler 10 ans. Il n'y a rien qui sort. L'intuition dans l'interrogation, cette relation radicale, fondamentale entre l'imparfait et le parfait, qu'est-ce que c'est pour l'être d'être parfait? Qu'est-ce qui fait que l'être est parfait et qu'il, par le fait même, qu'il attire l'imparfait? Que l'imparfait n'a pas de sens par lui-même et que l'imparfait est tout entier tendu vers le parfait. L'Ancien Testament est imparfait. Il n'a pas de sens par lui-même s'il est coupé de sa finalité. Mais là, je transpose au niveau de la foi. Et c'est capital. Celui qui confond l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il n'en sort pas. Et par le fait même, il ramène l'être au devenir. Et comme le devenir est multiple, et que l'être est un, et que le parfait est un, le multiple crie toujours beaucoup plus fort. Il l'emporte tout le temps. Suffrage universel. Le multiple est pour le suffrage universel. L'imparfait est pour le suffrage universel. Les Grecs avaient le courage de le dire. On n'a plus le courage de le dire. Parce que on a sacralisé la démocratie. On n'a plus le courage de le dire. Alors qu'on devrait avoir le courage de le dire au point de vue métaphysique, quoi. C'est net. L'imparfait n'a pas de sens s'il est coupé du parfait. La psychologie sans la métaphysique n'a pas de sens. Allez jusqu'au bout. Ça n'a pas de sens. Ça peut vous donner des recettes. Ça peut vous donner des recettes. Mais on ne vit pas de recettes. On s'en fait. Qu'est-ce qui fait vivre? C'est la finalité. Alors c'est vrai, les recettes peuvent être très intéressantes quand vous avez des trous, quand vous avez des obstacles. Ça peut être très intéressant. Mais si c'est pas finalisé par la fin, ça n'a pas de sens. Mais c'est comme un remède que vous prenez sans comprendre pourquoi vous prenez ce remède. Le remède en lui-même n'est pas un bien. Il est un bien dans la mesure où il rend la santé. Et vous devez montrer la santé pour comprendre que le remède est nécessaire. Si vous ne montrez pas la santé, du reste, c'est ce qu'on fera dans toutes les propagandes. Regardez la manière dont on fait les propagandes vis-à-vis d'un nouveau remède. Grandes industries pharmaceutiques suisses. C'est très intéressant de parler avec ceux qui sont les ingénieurs au point de vue propagande. Comment font-ils ça? Comment font-ils la propagande du remède, la finalité, les effets du remède? Magnifique. C'est presque miraculeux, ce remède. Ils diront ça pour montrer l'admiration qu'on doit avoir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être en tant qu'il est parfait? C'est l'être en acte. Il faut comprendre cela. Hein. L'être en acte, je le saisis avant l'induction. Mais il y a le nom. Il n'y a pas la signification. Il y a le nom. Celui qui dort, je ne dirai jamais qu'il est. pleinement actué. Je dirais qu'il a en lui des capacités extraordinaires. Attendez qu'il soit réveillé. Et vous verrez, vous va vous résoudre tout de suite ce problème. Mais attendez qu'il soit réveillé. Parce qu'il ne va pas résoudre ce problème quand il dort. C'est très extraordinaire, ça. De voir que c'est l'être en acte qui est présent dans toutes ses modalités d'état imparfait et d'état parfait. L'état parfait, c'est toujours une des modalités de l'être en acte. L'état imparfait, c'est toujours une modalité de l'être en puissance. Alors vous voyez que cette induction, qui est la plus parfaite de toutes les inductions, elle est d'une extraordinaire simplicité. Mais elle s'appuie sur une quantité d'expérience. État imparfait, état parfait. Le sommeil et l'éveil. La maladie et la santé. Capable de voir qu'un je vois. Et je vois ce quelque chose de commun qu'est l'être. L'être comme tel, parce qu'il est premier et qu'il est simple, refuse le status, l'état. Quand je dis l'être en acte, ce n'est plus un état. C'est un principe. Il y a le passage, alors ça c'est très important à saisir, il y a le passage de l'état au principe. C'est le passage, analogiquement, en tant que chrétien, entre l'Ancien Testament et le Nouveau. L'Ancien Testament est descriptif, il nous montre les états religieux. Le Nouveau Testament nous donne la finalité à l'état pur. Avec cet immense avantage de la foi, c'est que cette finalité est une personne. C'est Dieu. C'est Dieu avec un visage humain. C'est Dieu avec assumant la nature humaine. C'est donc le principe, la fin, avec une modalité pleinement en connaturalité avec moi-même. Et le tiesti et le pos qui s'unissent dans la personne divine. C'est le propre des vertus théologales. Les vertus théologales donnent la finalité et le pose. Je suis la voie, la vérité et la vie. Alors ne cherchez pas une méthode en dehors de la voie, puisqu'au point de vue surnaturel, la finalité et la voie, le pose et le tiesti sont un. Voyez la tentation permanente de l'homme, de dire oh, je respecte la finalité, je la touche pas, je sais bien, mais ma méthode, Jésus dit je suis la voie, autos, la méthode, vous voudriez bien l'avoir inventé la méthode, que ça vienne de vous, et non, Jésus est autos. Il est la voie. Donc il est la méthode. Il n'y en a pas d'autre. Qui n'est pas une méthode puisqu'elle est identifiée à la vérité, à la vie. Qui est la finalité. Les deux se retrouvent unis. Le tiesti et le pose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de croire. Mais la foi ne supprime pas l'intelligence. Mais la foi va mettre en une méthode. Donne-nous une méthode pour passer de l'état d'infirmité. J'ai un pauvre type. Et pour être réveillé, pour être finalisé, donne-nous une méthode. Jean-Baptiste le faisait. J'ai dit notre père. C'est la méthode des pauvres, ça. Comme c'est difficile d'accepter la pauvreté jusqu'au bout, point de vue chrétien. Très difficile. Alors, on prend très bien Pélage. Sauve-toi et puis Dieu viendra t'aider. Et fais comme si Dieu n'existait pas. Sois intelligent, fais comme si Dieu n'existait pas. Ça, c'est Pélage. Et c'est le moine. Je dis bien un moine terriblement volontaire, suarésien. Terriblement volontaire. Je vais pouvoir par moi-même me sauver. Et ça se retrouve partout, ça. Si je saisis l'induction de l'acte, je peux comprendre que dans l'ordre surnaturel, Jésus est à la fois la fin et la voie. Le diesti, elle pose. Il faut saisir ça. Si je ne saisis pas ça, je confondrai tout. C'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas de théologie scientifique si on ne saisit pas la saisie de l'acte. Il n'y a plus de théologie scientifique. C'est pour ça que ça va très loin, cette saisie. L'intelligence saisit l'être en acte comme le principe selon la fin. Et l'être en puissance comme celui qui est tout entier ordonné à l'acte. Qui est, d'une certaine manière, le conditionnement. Ce qui permet le devenir, même à l'égard de l'acte. Mais un devenir qui est tout entier tourné vers l'acte. Alors, voyez, je termine en disant ceci. Comme le corps, et le conditionnement substantiel de la personne humaine. L'être